إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، notre cher frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Comme je vous l'ai annoncé, on va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, une série de cours portant sur un livre d'une grande importance. Ce livre est intitulé Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, que l'on pourrait traduire par « ce que tout musulman et toute musulmane doivent obligatoirement savoir ». Comme vous allez le voir, ce livret traite des points les plus importants de la croyance que tout musulman et toute musulmane doivent connaître. Et ce livret, en réalité, c'est une compilation de paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala, ainsi que de ses petits-enfants, rahimahumullah ta'ala. Cet imam, comme vous le savez, a consacré une grande partie de sa vie à l'appel à l'islam authentique, l'appel au tawhid, c'est-à-dire le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet appel, ce n'est autre en réalité que le prêche de l'ensemble des messagers, alayhim salatu wa salam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur ordonner de délaisser le polythéisme et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans son noble livre, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ » Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, vouez un culte exclusif à Allah et écartez-vous du tarout, écartez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc l'auteur de cette compilation, il a réuni dans celle-ci les points les plus importants qu'il incombe à chacun d'entre nous de connaître et de mettre en pratique au sujet de la croyance. Et il est divisé en plusieurs parties. Il traite au départ des trois fondements que tout musulman et toute musulmane doit connaître, et ceci va être le sujet de notre assise d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Mais il aborde également le fondement et la base de la religion de l'islam, ainsi que les conditions de la ilaha illallah avec leurs preuves, mais aussi les annulatifs de l'islam, les catégories de tawhid, les catégories de shirk, les catégories de kufr, de mécréance, de l'hypocrisie, et enfin le sens du tarout. Et on va traiter chacun de ces sujets dans les assises qui vont suivre dans les semaines à venir, incha'Allah ta'ala. On va donc commencer la lecture de cette épître, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable, ainsi qu'une œuvre agréée. Il est certes celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. L'auteur a commencé par dire « Bismillahir Rahmanir Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a donc commencé son livre par la basmala. Et comme vous le savez, les savants, rahimahumullah ta'ala, ont pris comme habitude de commencer leur livre par la basmala, ainsi que leurs épîtres. Et ce, suivant l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'ensemble des sourates commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, à l'exception de sourate At-Tawba. Mais également, à l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait d'écrire des lettres qu'il envoyait aux différents rois pour les appeler à l'islam, il ordonnait de commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim. Il est donc recommandé pour celui qui écrit un livre au sujet de l'islam, au sujet de la religion, de commencer par la basmala. Et lorsque tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala son aide dans ce que tu vas écrire. Et également, tu recherches à travers cela la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par son nom. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, al-usul al-thalatha, allati yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ta'allumuha. Les trois fondements qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre. Ceci est donc le sujet de la première partie de ce livre que l'on va traiter aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Al-usul en arabe, c'est le pluriel du mot asl, que l'on a traduit par fondement. Et le fondement d'une chose, c'est sa base. C'est ce sur quoi on va tout construire. Donc ces trois fondements, ce sont les fondements et la base de la religion. Et ces trois fondements, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il ne les a pas amenés de lui-même, mais il les a déduits des textes du Coran et de la Sunna. Il n'est pas venu avec une chose sans preuve. Et c'est ce qui est connu du Cheikh, rahimahullah ta'ala, dans l'ensemble de ses ouvrages. Il habitue l'étudiant et le lecteur à lier chaque question qu'il apprend à sa preuve, tirée ou bien du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et telle est l'éducation salafi. En effet, le salafi apprend auprès des gens de science qu'il ne peut pas accepter une parole si ce n'est accompagné de sa preuve. Et comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, de toute personne, on prend ou on rejette si ce n'est celui qui est dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur rahimahullah, il a déduit ces trois fondements des textes du livre et de la sunna. Comme cela est confirmé dans les deux recueils de hadith authentiques, d'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, et autres que lui parmi les compagnons, au sujet du hadith de l'homme lorsqu'il sera placé dans sa tombe et que viendront à lui deux anges pour le questionner. Sur quoi vont-ils le questionner? Ils vont le questionner sur ces trois fondements que le Cheikh rahimahullah ta'ala va aborder ici. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant, lorsqu'il sera dans sa tombe, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermira d'une parole ferme. Et il répondra à ses questions. Quant à l'hypocrite, ou celui qui est dans le doute, qui n'a pas la certitude, il dira alors, « Ah, ah, je ne sais pas. J'ai écouté les gens dire une chose, et je l'ai répétée. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir dans nos tombes lorsque ces questions nous seront posées. Ce hadith, il nous prouve donc que c'est une obligation individuelle pour chacun d'entre nous d'apprendre ces trois fondements. Car comme vous le savez, les obligations en islam, elles sont de deux sortes. Il y a l'obligation individuelle et l'obligation communautaire. Fardu aynin ou fardu kifaya. L'obligation individuelle, c'est celle qui est obligatoire pour tous, à l'exemple de la prière. Et l'obligation communautaire, c'est celle qui est obligatoire seulement pour une partie de la communauté. C'est-à-dire que si une partie s'en charge, les autres en sont affranchis. Mais si personne ne l'accomplit, alors tout le monde est dans le péché. À l'exemple de l'appel à la prière. Et il en est de même pour les sciences. Il y a des sciences qu'il incombe à tout musulman et toute musulmane de connaître, que nul n'est censé ignorer, comme ces trois fondements. Et d'autres sciences, comme les sciences de l'héritage par exemple, que seule une partie de la communauté a besoin de connaître, et si c'est le cas, les autres en sont alors affranchis. Mais ces trois fondements, comme on l'a dit, ils font partie des obligations individuelles. Nul n'est censé ignorer ces trois fondements. Et il dit que ceci est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. C'est-à-dire que l'obligation, mes frères, elle ne se limite pas aux hommes, mais elle concerne aussi les femmes. Les femmes également se doivent d'étudier la science religieuse. L'étude de la science, ce n'est pas une chose qui est réservée aux hommes seulement. Mais les femmes également doivent étudier la science religieuse, assister aux assises de science, lire des livres, écouter des cours des gens de science parmi les savants ou les étudiants en science, et ainsi de suite. Et il incombe également à l'homme qui assiste aux assises de science, qui élargit ses connaissances, d'en faire profiter sa famille et d'enseigner le bien qu'il apprend et le partager autour de lui. Donc ces trois fondements, ils sont obligatoires pour tous, pour les hommes comme pour les femmes. Et nul n'est censé les ignorer. Nous devons tous les connaître, mais également y croire avec certitude et mettre en pratique ce qu'ils impliquent de façon apparente et cachée. Et la science, mes frères, comme l'a défini Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est la connaissance de l'huda, de la guider, de la voie à suivre avec sa preuve. Ceci est la science. Et lorsqu'on parle de science, bien sûr, on parle de la science religieuse et non pas des sciences mondaines. Lorsqu'on voit le mot al-ilm dans les textes du Coran et de la Sunna ou dans les paroles des savants, alors la base est que ce qui est visé, c'est la science religieuse. Et ceci est d'une grande importance pour tous, comme on l'a dit. D'ailleurs, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit une phrase à ce sujet. Sache que l'étude de la science est une obligation et que c'est une guérison pour les cœurs malades. Allahu Akbar. L'étude de la science, c'est une obligation pour toi. Et en plus de cela, elle va guérir les maladies qui ont pu toucher ton cœur. Ensuite, il dit, et la chose la plus importante que le serviteur doit connaître est sa religion. Celle dont la connaissance et la mise en pratique sont la cause de son entrée au paradis. Et l'ignorance de celle-ci ou sa négligence sont une cause d'entrer en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il incombe donc à chacun d'entre nous de faire des efforts dans cela, de faire des efforts dans l'étude de la science et de faire des efforts également dans la mise en pratique de cette science. Et il n'y a pas de doute que celui qui apprend ses fondements et qu'il les met en pratique, alors il peut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse dans la vie présente ainsi que dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant sera interrogé dans sa tombe, il attestera que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit en explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a fermé ses serviteurs croyants, c'est-à-dire ceux qui ont accompli ce qui leur incombe comme foi complète dans leur cœur, ce qui nécessite obligatoirement des œuvres du corps qui découlent de cela. Il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala les raffermit dans la vie présente. Lorsque se présentent à eux des ambiguïtés, Allah subhanahu wa ta'ala les oriente vers la certitude, c'est-à-dire qu'il les préserve de ces ambiguïtés. Il dit, lorsque se présentent à eux les désirs, il les oriente vers la volonté ferme à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime au détriment de ce que son âme désire. C'est-à-dire lorsqu'il se retrouve face au shahawat, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit et l'oriente vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et l'aide à délaisser ce à quoi son âme l'appelle. Il dit ensuite, et dans l'au-delà, au moment de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit sur la religion de l'islam en lui accordant une bonne fin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la meilleure des fins. Il dit ensuite, et dans la tombe, lors de l'interrogatoire des deux anges, il le raffermit en lui permettant de donner la bonne réponse. Lorsqu'il sera dit aux morts, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Allah subhanahu wa ta'ala les orientera alors vers la bonne réponse et le croyant dira, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et Mohammed est mon messager, sallallahu alayhi wa sallam. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir par la parole ferme, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Ensuite, il dit, rahimahullah, wahiya, معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc ces fondements qui sont obligatoires pour chaque musulman et chaque musulmane, il dit c'est que le serviteur connaisse son seigneur, sa religion et son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. La connaissance du Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, et ceci est la base de tous les fondements. Il est obligatoire pour nous de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, afin de l'adorer comme il se doit et avec clairvoyance. Le serviteur, il ne pourra mettre réellement en pratique sa religion, si ce n'est en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala et en connaissant le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur lui, c'est-à-dire de l'adorer seul en lui vouant un culte exclusif. Le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion, c'est-à-dire la religion de l'islam. Et il incombe à chacun d'entre nous de la connaître comment ? Avec ses preuves tirées du Coran et de la Sunna. Non pas par les inventions des gens, non pas par les innovations instaurées en religion, non pas selon l'interprétation d'un tel ou d'un tel, mais seulement par les preuves du Coran et de la Sunna. Et le troisième fondement, c'est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en termes de transmission du message. C'est-à-dire qu'il a transmis au serviteur le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le meilleur de toutes les créatures de manière absolue. Il est donc obligatoire pour nous de le connaître et de connaître sa voix afin de l'emprunter, car il n'y a aucun moyen pour le serviteur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, si ce n'est comment ? Si ce n'est par ce avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, il a commencé, rahimahullah, par mentionner ses fondements de manière générale. Il les a cités les trois, puis il va donner un peu plus de détails sur chacun d'entre eux. Il a donc dit ensuite, rahimahullah, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّي اللَّهِ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَاهُ. Donc si on te dit qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. C'est lui que j'adore et je n'adore nul autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il commence à détailler, rahimahullah. Et il a présenté le détail au sujet de ces trois fondements sous forme de questions-réponses. Et il a commencé par dire, si on te dit qui est ton Seigneur, c'est-à-dire qui est ton Dieu que tu adores, qui est celui qui t'a éduqué, qui est celui qui t'accorde ta subsistance et qui est celui qui t'a éduqué par ses bienfaits. Alors le serviteur répond, mon Seigneur est Allah, c'est lui qui m'a créé à partir du néant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a éduqués par ses bienfaits, seul sans associé. Et il a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits apparents et cachés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède l'ensemble de l'univers. Sa royauté, elle est parfaite subhanahu wa ta'ala. Également, c'est lui qui accorde la subsistance à l'ensemble des créatures. Et c'est lui qui dirige l'ensemble de l'univers de la manière dont il veut, subhanahu wa ta'ala. Et les créatures, à la base, dans leur saine nature, elles reconnaissent l'existence de leur créateur. Personne, parmi les créatures, ne rejette la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que son existence, sauf une personne qui a perdu la raison, ou alors une personne orgueilleuse et entêtée, comme cela fut le cas de Pharaon. Car si tu médites sur l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses signes, aussi petit soit-il, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé montre son existence et qu'il est le seul à les avoir créés en dehors de tout autre que lui. Il dit donc Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'a al-'alamin bini'ami. Mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Al-alamun, en arabe, c'est le pluriel du mot alam, et qui désigne tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ensemble des créatures. L'ensemble des créatures ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des créatures reçoivent leur subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des créatures sont dirigées par Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui. Ensuite, il dit وَهُوَ مَعْبُودِي. Et c'est lui que j'adore. C'est-à-dire que l'adoration, elle est vouée à qui ? Elle est vouée au Seigneur de l'univers. Et nul autre que lui ne mérite l'adoration. Et je n'adore nul autre que lui. C'est-à-dire de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à t'avoir créé, le seul à t'accorder ta subsistance, le seul à diriger l'univers, alors de la même manière, il est le seul à mériter d'être adoré en dehors de tout autre que lui. Et c'est ce qu'indique la parole du Tawhid, la meilleure des paroles, celle par laquelle l'homme passe de l'obscurité de la mécréance à la lumière de l'islam. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande des preuves de cela, c'est-à-dire la plus grande des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration, c'est l'unicité dans la seigneurie. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est d'ailleurs servi de cela comme argument contre les polythéistes à de nombreuses reprises dans son livre, comme on le trouve dans le premier ordre qui vient lorsque tu lis le Coran. Le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre à ses serviteurs, il leur ordonne de l'adorer. Pourquoi? Car c'est lui leur Seigneur. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, walladhina min qabrikum, la'allakum tattaqoun. » Celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire de la même manière que vous reconnaissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est votre Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ceux qui vous ont précédé. Alors reconnaissez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration en dehors de tout autre que lui. Ceci est donc le premier fondement qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane de connaître. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا دِينُكَ فَقُلْ دِينِ الْإِسْلَامِ وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Il dit donc, rahimahullah, et si on te dit, quelle est ta religion? Réponds alors, ma religion est l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que c'est? Il en a donné sa définition. Il a dit, c'est la soumission à Allah par le tawhid, par l'unicité. La sujétion à lui, par son obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc ici, rahimahullah, il commence à développer le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. C'est-à-dire que si une personne te demande quelle est ta religion, quelle est la religion par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle tu cherches à obtenir le bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà, alors réponds, ma religion est l'islam. L'islam qui est la religion de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salat wa salam. L'islam qui est la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam qui est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses prophètes et tous ses messagers de Nuh jusqu'à Muhammad alayhimus salat wa salam. Leur religion était toute la même. C'était l'islam tel que l'on vient de la définir. Mais leur législation était différente. Et l'islam est la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, comme on le trouve dans Surat Ali Imran, au verset 19, « Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. » Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans la même surat, au verset 85, « Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. » Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion de l'islam. Et lorsqu'il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé par cette religion l'ensemble des religions qui l'ont précédée. Et cette religion, elle est composée de trois degrés. Al-Islam, Al-Iman, qui est la foi, Al-Ihsan, la bienfaisance. Et chacun de ces degrés a des piliers. Et on a vu ce sujet en détail lors de notre étude du hadith Jibril, alayhi salam. Et également, pour ceux parmi vous qui ont suivi avec nous, les cours sur l'usul al-thalatha, les trois fondements, dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, a détaillé chacun de ces degrés et en a donné les piliers. Ici donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a défini l'islam comme étant « al-istislamu lillahi bit-tawhid ». Al-istislam, cela signifie l'avilissement et la soumission. C'est-à-dire que tu te soumets à Allah par quoi? Par le tawhid. On lui voue un culte exclusif dans l'adoration. Donc le musulman, il est soumis, il est servi, il est humble. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala seul en dehors de tout autre que lui. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en comment? En lui vouant un culte exclusif. Ensuite, il a dit, وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ et la sujétion à lui par l'obéissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant que tu te soumettes simplement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne lui donnes pas d'associé. Mais il est indispensable également que tu sois assujetti à ses ordres, que tu lui obéisses en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits, en accomplissant les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en délaissant ses interdits et ce, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième partie de la définition de l'islam, c'est un point très important. Il a dit « وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ » et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc le musulman qui se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et n'adore nul autre que lui, il y a autre chose qui est obligatoire pour lui. Et cette chose, c'est le désaveu. Qu'il se désaveue de toute forme de polythéisme. Que ce soit le polythéisme majeur ou le polythéisme mineur. Et également, qu'il se désavoue des adeptes du polythéisme. Et ceci implique qu'il ait de l'animosité envers eux pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ceci implique de les considérer et les taxer de mécréance. En effet, la personne ne peut pas se contenter de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de n'adorer nul autre que lui, et ensuite considérer ceux qui mécroient en cette religion comme croyants, comme frères en religion, frères en humanité, ou autres paroles sordides que l'on entend sortir de la bouche de certains prêcheurs aux portes de l'enfer. L'islam, ce n'est pas seulement des mots. L'islam, c'est une religion, un culte que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam, sa réalité, elle est telle que l'a défini l'auteur ici, rahimahullah. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala en vouant un culte exclusif. Tu te soumets à lui par son obéissance. Tu accomplis ses ordres et délaisses ses interdits. Et également, tu te désavoues du polythéisme et de ses adeptes. Tu considères le croyant comme tel et le mécréant comme tel. Et tu ne dis pas, comme le disent certains prêcheurs, aux portes de l'enfer, ceux-là, en parlant par exemple des gens du livre, sont nos frères en l'humanité. Et par ces paroles-là, ces gens tentent d'altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éloigner les gens de son fondement immense qui est l'alliance et le désaveu en islam. Ceci est donc une question très importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans de nombreux versets dans son noble livre ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths. Mais malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens sont négligents vis-à-vis de cet ordre. Et ceci est une affaire très dangereuse qu'il ne convient pas de prendre à la légère. Car celui qui prend à la légère ces choses qui font partie des fondements même de notre religion, wallahi mes frères, il est à craindre pour lui la déviance de son cœur et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc, le bienheureux, c'est celui qui prend connaissance de la réalité de sa religion, la religion de l'islam, et qui craint pour sa personne de la perte de sa religion, bien plus qu'il craint la perte de sa santé ou de ses biens mondains. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés à ce bas monde et ils ont perdu la réelle valeur des choses. La chose que tu dois craindre le plus de perdre, c'est quoi? C'est ta religion. Tu ne dois pas mettre en danger ta religion. Quant à ton corps, ta santé, tes biens de ce bas monde, il n'y a pas de doute que tu dois les préserver. Mais la préservation de ta religion passe avant cela et bien au-dessus de cela. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire mourir en pleine soumission à lui. Donc comme on l'a dit, il est obligatoire pour le musulman de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes et de les considérer comme mécréants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de l'imam des muwahhidin, Ibrahim alayhi salam, comme il est venu dans surat Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَا. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous
et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, nous vous renions. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est ceci le but recherché. Que les adorations soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le message à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'un des premiers ordres qu'il lui a donné? Dans les premiers versets de Surat al-Muddathir, par lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Et de tout péché, écarte-toi. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit en explication de ce verset, comme on le trouve dans les trois fondements, le péché qui est visé ici, ce sont al-asnam, les statues qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'en écarter consiste à les délaisser ainsi que ses adeptes et à se désavouer d'elles ainsi que de leurs adeptes. Donc comme vous le voyez, ceci fait partie des fondements essentiels de notre religion. Et on réabordera ce sujet dans la prochaine assise lorsqu'on parlera de la base de la religion et de son fondement. Ceci est donc un bref aperçu du deuxième fondement qui est la connaissance de la religion qu'il incombe à tout musulman et toute musulmane de connaître. Il est ensuite passé au troisième et dernier fondement. Et il a dit, rahimahullah, وَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ نَبِيُّكْ فَقُلْ هُوَ مُحَمَّدْ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِبْنِ هَاشِمْ وَهَاشِمْ مِنْ قُرَيْشِ وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. Donc si on te demande qui est ton prophète, réponds, c'est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de la tribu de Quraysh, et Quraysh est une tribu arabe, et les Arabes sont la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil, alayhima wa ala nabiyina, afdalu salati wa taslim. Ceci est donc le troisième des fondements qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane de connaître. C'est la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'univers en tant qu'annonciateur et avertisseur pour rappeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission et comme une lampe éclairante. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers, alayhi wa salatu wa salam, et le meilleur de toute la création. Parmi les choses qu'il incombe aux croyants de savoir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que c'est un serviteur. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un homme et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc aucun droit à l'adoration. L'adoration, elle ne doit pas lui être vouée, mais elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, il y a bien évidemment l'invocation, qui malheureusement est vouée par nombre de personnes s'affiliant à l'islam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui lui adressent des demandes en disant « Ya Rasulallah », puis ils adressent leurs demandes. Et ceci, il n'y a aucun doute que cela fait partie des formes de polythéisme majeur qui font sortir la personne de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur. Il ne doit pas être adoré, mais c'est un messager également et il ne doit pas être démenti. Il est donc obligatoire pour nous de lui obéir et de le suivre. Il est donc obligatoire pour nous de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en lui, de l'aimer, de lui obéir et de le révérer. Et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle englobe un certain nombre de choses. Parmi celles-ci, la connaissance de sa noble filiation, comme l'auteur l'a mentionné ici, rahimahullah ta'ala, mais également connaître les principaux événements de sa vie, comment il est devenu prophète, comment il est devenu messager, où est-ce qu'il est né, vers quel endroit il a émigré, et la chose la plus importante à connaître au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce avec quoi il a été envoyé. C'est-à-dire, quel est le message qu'il a transmis à l'univers de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ce message n'est autre que le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart de ces points ont été mentionnés par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son livre Les Trois Fondements. Et ceux qui veulent savoir plus de détails à ce sujet peuvent revenir aux cours que l'on a donnés à ce sujet qui sont présents sur le site annasiha.com. Donc le musulman et la musulmane, ils ne peuvent pas ignorer celui dont le suivi et l'obéissance sont le seul chemin pour entrer au paradis et être sauvé du feu. En effet, il est impossible pour la personne d'entrer au paradis et d'être sauvé du feu de l'enfer si ce n'est par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'était pas possible de connaître le premier fondement, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même le deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam, si ce n'est par la connaissance du troisième fondement, qui est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en termes de transmission du message. Il est donc obligatoire pour nous de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de savoir qui est cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme guide pour l'humanité, pour les faire sortir de l'obscurité de la mécréance et du polythéisme à la lumière de l'islam et du tawhid. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parmi les musulmans, donnent beaucoup d'importance à la connaissance de leur footballeur préféré, de leur chanteur ou leur acteur préféré, ou l'ayadu billah, ou autres personnalités qui ne sont en réalité d'aucune importance. Mais beaucoup d'entre eux ignorent qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre eux ne connaissent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que son prénom. Ils ne savent rien d'autre à son sujet. Et ceci est une cause de la situation de la communauté aujourd'hui. Cette faiblesse que vit la communauté musulmane, que ce soit dans les pays d'Occident ou même dans le monde musulman, elle ne provient pas d'un manque de moyens ou d'un manque d'organisation, comme certains, influencés par le prêche politique, essayent de le prétendre. Mais la faiblesse de la communauté, elle provient de notre ignorance en matière de religion, de notre ignorance en ce qui concerne ce qui nous incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre ignorance en ce qui concerne ce qui nous incombe vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu pratiquer l'islam tel que l'a révélé Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu ne connais ni la réalité de l'islam, ni la réalité de la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne sais pas qui est le prophète. Quelle est la réalité de son message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, lui a ordonné de transmettre à l'ensemble de l'humanité? Comment pourrais-tu mettre en pratique l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime l'agré? Il incombe donc à chacun d'entre nous de se remettre en question et de se réformer à ce sujet. Donc ici l'auteur, rahimahullah, il s'est contenté de donner l'affiliation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs noms. Et son prénom le plus connu et qui a été le plus mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans la sunna, c'est Muhammad. Et également parmi ses prénoms il y a Ahmed, comme cela est venu dans surat As-Saff. Et il a d'autres noms également. Et il a été appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de par ses nombreuses caractéristiques louables. C'est-à-dire que cela vient de l'hamd, les louanges. Il est appelé Muhammad car il est beaucoup loué. Il est plus loué qu'autre que lui parmi les hommes car il a de nombreuses caractéristiques louables. Et sa kunya au prophète sallallahu alayhi wa sallam était Abul Qasim. Son père s'appelait Abdullah. Son grand-père, Abdul Muttalib. Et en réalité, Abdul Muttalib, c'est un surnom qui avait été donné à son grand-père. Mais son vrai prénom, c'était Shayba. Et pourquoi il a été appelé Abdul Muttalib? Ils ont mentionné qu'il a été appelé Abdul Muttalib car il avait un oncle paternel qui s'appelait Al-Muttalib. Et un jour, il est venu à Mecca avec lui et sa couleur avait changé à cause du voyage. Les gens l'ont donc pris pour un abd. Ils l'ont pris pour un servant, pour un esclave. Ils l'ont donc appelé l'esclave d'Al-Muttalib, Abd Al-Muttalib. Et ce surnom lui est resté et c'est ainsi qu'il a été appelé et connu. L'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Hashim. Et lui aussi Hashim, ce n'est pas son vrai nom, mais son vrai nom est Amr. Mais il a été appelé Hashim, cela provient de Al-Hashim,
en arabe qui désigne la bienfaisance et la générosité. Et elle a été appelée ainsi car, durant les années de famine, il distribuait de la nourriture à son peuple. Et donc Hashim, il fait partie de la tribu de Quraysh. Et Quraysh font partie des Arabes qui sont la descendance de Ismaïl, le fils de Ibrahim el-Khalil, alayhim as-salam. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. On voit donc que la filiation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des filiations. Il provient du meilleur peuple et de la meilleure des tribus, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Quant aux détails de sa vie, il est mentionné dans les livres de Sirah, comme le livre de l'auteur lui-même, Mukhtasar al-Sirah, ou Al-Fusul, de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, ou parmi les livres plus détaillés, Al-Bidaya wa al-Nihaya, d'Ibn Kathir également, ou Zad al-Ma'ad, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahumullahu ta'ala. Ceci est donc le troisième des fondements qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane de connaître. Nous verrons, incha'Allah ta'ala, dans notre prochaine assise, la deuxième partie de ce livre, qui est Asluddin wa qa'idatuhu, le fondement de la religion et sa base. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا